بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، comme vous le savez, donc on va entamer l'étude d'un livre important dans une matière très importante, une discipline très importante qui est celle du fiqh. Et le fiqh, ça compte parmi les plus grandes obligations dans la religion. Et le fiqh, ça compte parmi les choses les plus éminentes, les plus méritoires. Étant donné que de cela va dépendre la validité de l'œuvre. Étant donné qu'une œuvre, comme vous le savez, elle doit être basée sur de la science, sur un savoir. Et ce savoir-là, pour qu'il soit un savoir authentique, conforme il faut qu'il soit conforme au texte du Coran et de la Sunna. Et pour qu'il soit conforme, il faut au préalable avoir étudié ces choses-là, ce qui revient à étudier le fiqh. On retrouve l'importance du fiqh dans de nombreux textes. Parmi ces textes-là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dans sourate At-Tawba, verset numéro 122, les croyants n'ont pas quitté tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple, afin qu'ils soient sur leur garde. Et tu retrouves également le mérite du fiqh dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Il faut donc savoir que le terme fiqh, dans ces textes, il désigne l'instruction. Ça désigne l'instruction religieuse, ainsi que la compréhension. La compréhension de la religion. D'ailleurs, dans son sens linguistique, le terme fiqh désigne la compréhension. Quant à la définition du fiqh en termes religieux, ça va venir, incha'Allah ta'ala. Il faut savoir, à partir du verset que vous avez entendu, qu'on se rend compte qu'il y a de nombreuses choses qui dépendent du fiqh, qui dépendent de l'instruction religieuse, qui dépendent de la bonne compréhension de la religion. Parmi ces choses-là, la prédication, qui ne peut être entamée qu'après s'être correctement instruit. De même que le fait d'ordonner le convenable, al-amr bil ma'ruf, et de réprouver le blâmable, النهي عن المنكر. Toutes ces choses-là ne peuvent être entamées qu'après s'être correctement instruit en matière de religion. Il faut savoir que le fiqh dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux sortes. Le fiqh dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux sortes. Un fiqh qui n'est obligatoire d'étudier à tout musulman et musulmane. Un fiqh qui est obligatoire d'étudier à tout musulman et musulmane. Et c'est tout ce qui est relatif au fondement du dogme islamique et aux règles culturelles quotidiennes. Tout ce qui a trait à la purification, à la prière, à l'aumône obligatoire, à zakat, au jeûne du mois de Ramadan et au hajj pour celui qui s'apprête à l'accomplir. Autant de choses sans lesquelles le serviteur ne peut pas correctement s'acquitter de ce qui lui est obligatoire. Deuxièmement, il y a ce qui relève de l'obligation communautaire. Lorsqu'un nombre suffisant s'en charge, le restant de la communauté n'est pas dans le péché. Lorsqu'un nombre suffisant s'en charge, le restant de la communauté n'est pas dans le péché. Et cela concerne ce qui est relatif aux relations sociales, à l'héritage, aux règles du mariage, aux règles du divorce, et ainsi de suite. Il suffit que certains membres de la communauté, qui représenteraient un nombre suffisant de personnes, connaissent ces règles-là, pour que le restant de la communauté ne soit pas dans le péché du fait qu'ils ne les connaissent pas. Sous un autre angle, on peut également dire que le fiqh, il se divise en deux parties. Donc ça, c'était en prenant en compte ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. En considérant donc le fiqh sous un autre angle, on peut dire qu'il se divise en deux parties. Un fiqh majeur, al-fiqhu al-akbar. Et c'est ce qui désigne la compréhension du dogme. De manière générale. Et du tawhid de manière plus particulière. Et ce type de fiqh là, on le retrouve justement dans les livres de dogme, l'aqid, hein, et dans les livres de tawhid. Il y a également un fiqh qui est général. Et que tu vas retrouver dans les livres de fiqh, qui généralement débutent par les règles de la purification et s'achèvent par ce qui est lié au jugement, au sujet donc du jugement. Tu vas trouver dans ces livres-là tout ce qui est lié au culte, aux modalités du culte, la purification, la prière et ainsi de suite, ainsi qu'aux relations sociales. Le commerce, le mariage, et ainsi de suite, ainsi que ce qui est lié au jugement et aux peines légales en islam. Donc il faut savoir que le fiqh, de manière générale, c'est une richesse inestimable. Le fiqh, de manière générale, c'est une richesse inestimable. Et les gens, face à cette richesse-là, ils sont de trois catégories. Premièrement, ceux qui ne lui accordent pas sa place, en prétendant que cela détourne de la mémorisation des textes, du Coran et de la Sunna, et de l'importance à leur accorder. C'est ainsi qu'ils en viennent à ne pas donner au fiqh la place qu'il mérite, en considérant que ce n'est qu'un amas d'opinion humaine et d'efforts d'interprétation qui n'ont, selon eux, aucune valeur. Deuxièmement, ceux qui exagèrent dans ce domaine-là, en suivant les opinions des fuqaha, c'est-à-dire les savants spécialistes en matière de fiqh, au détriment des preuves religieuses, en en arrivant parfois à suivre aveuglément leurs imams. Et troisièmement, tu as ceux qui prennent des paroles des ulama, ce qui est en conformité avec les preuves religieuses, et cèdent de leurs travaux pour comprendre le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette dernière catégorie est celle du juste milieu auquel il nous incombe de s'en tenir. وَلَا تَغْلُوا فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَاقْتَصِدْ كِلَا طَرَفَيْ قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيمُ. N'exagère en rien dans tes affaires et sois pondéré, car les deux extrêmes dans l'histoire sont blâmés. Donc il nous incombe de nous en tenir au juste milieu dans l'ensemble des affaires de notre religion. Cela nous amène à parler d'un sujet important, à savoir le comportement à adopter vis-à-vis des ulama. On peut résumer ce comportement-là en deux points. Premièrement, l'inconditionnel attachement à la vérité qui ne pousse à ne pas exagérer concernant ces ulama en les suivant aveuglément. Notre inconditionnel attachement à la vérité qui nous pousse à ne pas exagérer concernant ces ulama en les suivant aveuglément. Étant donné que ce que nous devons suivre, c'est ce qui est en conformité avec la preuve. Et comme nous y avons brièvement fait référence, les travaux des ulama de l'islam ont leur importance et on ne peut pas s'en passer. Mais ces choses-là, donc, ce sont des outils qui nous permettent de comprendre le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons donc pas donner à cet outil une place au-dessus de celle qu'il occupe. Deuxième point concernant le comportement à adopter vis-à-vis des ulama, le fait que nous les respectons et que nous leur cherchons des excuses s'il s'avère qu'ils ont adopté dans un sujet donné un avis qui ne nous apparaît pas conforme à la vérité. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a écrit un livre à ce sujet qu'il a intitulé « Raf'ul malam anil a'immatil a'lam »« Lever des reproches à l'encontre des célèbres imams » dans lequel il explique ce qui peut mener le savant à adopter un avis non conforme à la vérité. Parmi ces excuses-là qu'on peut leur trouver, c'est que parfois, il y a un hadith qui tranche dans un sujet donné, mais que eux, soit ils n'ont pas eu connaissance de ce hadith, dans le sens qu'il ne leur est pas parvenu, ou que ce hadith, ils le considéraient faible, car il est possible qu'il leur soit parvenu, mais avec des chaînes de transmission qui sont faibles, et d'autres excuses qui peuvent être trouvées aux ulama. Étant donné qu'il faut avoir à l'esprit que le savant de la sunna, son but c'est d'atteindre la vérité. S'il se trompe, ce n'est donc pas intentionnel, mais c'est à cause de quelque chose qui a fait qu'il a adopté un avis qui n'est pas conforme avec les preuves religieuses. Yeah. Étant donné que cette réalité est une réalité établie, mais il faut savoir que les grands imams eux-mêmes interdisaient à leurs adeptes de les suivre aveuglément. Et il y a de nombreux textes qui ont été rapportés d'eux, de nombreuses paroles, de nombreux propos qui ont été rapportés d'eux concernant cette chose-là. Et on va en lire certains parmi ceux que le noble cheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala, a recensé dans son livre Sifatu Salat al-Nabi, la description de la prière du prophète. Naam. Vous trouvez donc dans la traduction, à partir de la page 24, que le shir donc a dédié un chapitre à cela. Il a dit les propos des quatre imams concernant le fait de suivre la sunna et de délaisser leurs opinions si elles la contredisent. Le shir, rahimahullah ta'ala, a dit, il serait utile de rapporter ici quelques-unes des citations des quatre imams que j'ai pu trouver. Peut-être seront-elles une exhortation et un rappel pour ceux qui les imitent, ou imitent même aveuglément des gens qui sont moins savants qu'eux, et suivent leurs paroles comme si elles descendaient du ciel. Donc ça concerne ces imams-là, et également des gens qui sont moins savants qu'eux. Et il est important d'avoir à l'esprit ce type de paroles. Étant donné qu'à notre époque, nous continuons à nous rendre compte que des gens continuent à suivre aveuglément des imams de la religion ou des savants de la sunna, alors que certains d'entre eux critiquent avec leur bouche le suivi aveugle et sans s'en rendre compte, ils tombent dedans. Donc le shir de dire, « Or Allah, il soit glorifié, dit, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Suivez ce qui a été révélé de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Puis donc il a commencé à rapporter les propos relatés d'après l'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit le premier d'entre eux, l'imam Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit, Rahimahullah, ses compagnons ont rapporté de lui divers propos qui convergent tous vers une même réalité, l'obligation de suivre le hadith et de délaisser les avis des imams qui sont en désaccord avec celui-ci. Premièrement, si le hadith est authentique, alors c'est mon opinion. Ça, c'est l'imam Abu Hanif, hein, rahimahullah, qui disait cela. Deuxièmement, il n'est permis à personne d'adopter mon opinion sans savoir d'où je l'ai tiré. Dans une autre version, il est interdit à toute personne ne connaissant pas mes preuves de se baser sur mon opinion pour émettre une fatwa. Il a ajouté dans une autre version, car nous sommes des êtres humains. Nous émettons un avis aujourd'hui et nous nous rétractons le lendemain. Il dit encore dans une autre version, malheur à toi Yaqub, n'écris pas tout ce que tu entends de moi, car je peux avoir un avis aujourd'hui et le délaisser demain, ou avoir une opinion demain, et l'a changé après-demain. Troisièmement, si je dis une parole en désaccord avec le livre d'Allah et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors rejetez ma parole. Donc tu vois ici l'attachement inconditionnel à la vérité, au détriment de ses propres avis et opinions, rahimahullah. Deuxièmement, l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, quant à l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, il a dit, je ne suis certes qu'un être humain qui se trompe comme il peut avoir raison. Regardez donc attentivement mes opinions. Tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, prenez-le. Et tout ce qui est en désaccord, rejetez-le. Il a également dit les paroles de quiconque peuvent être soit acceptées, soit rejetées. Sauf celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça donc c'est une règle chez les adeptes de la Sunna. Troisièmement, Ibn Wahb a dit, donc Ibn Wahb, qui comptait parmi les plus grands élèves de l'imam Malik, rahimahullah. Sois attentif à cette anecdote et regarde le comportement de l'enseignant et de l'étudiant. Et le fait qu'ils étaient tous deux fermement attachés à la recherche de la vérité. Donc Ibn Wahb a dit, j'ai entendu Malik se faire questionner sur le fait de frotter entre les orteils pendant les ablutions. Il répondit, ceci n'est pas obligatoire. J'ai alors attendu jusqu'à ce qu'il ne reste plus beaucoup de monde autour de lui. Il a attendu le moment opportun. Naam, c'est pas empressé de couper la parole ou d'intervenir. Il a attendu le moment opportun. J'ai alors attendu jusqu'à ce qu'il ne reste plus beaucoup de monde autour de lui. Puis je lui ai dit, nous avons à ce propos une sunna. Il dit, et quelle est-elle? Je dis, Al-Layth ibn Sa'd, ibn Lahi'a et Amr, ibn al-Harith m'ont rapporté d'après Yazid ibn Amr, al-Ma'afiri, d'après Abu Abdurrahman, al-Halabi, al-Mustawrid, ibn al-Shaddad, al-Qurashi, qu'il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam frotter entre ses orteils avec son auriculaire pendant ses ablutions. L'imam dit alors, c'est-à-dire l'imam Malik rahimahullah, ce hadith a une bonne chaîne de rapporteurs et je n'en ai pas eu connaissance jusqu'à présent. Par la suite, lorsqu'il était questionné à ce sujet, je l'entendais ordonner de frotter entre les orteils. Naam. Donc tu vois qu'ici, l'imam a eu un avis conformément à ce à quoi s'était arrêté sa connaissance. Et donc cela, ça appuie ce qu'on a mentionné précédemment, comme quoi il est possible qu'un imam ou qu'un savant, il ait un avis, et que cet avis-là ne soit pas conforme, et que sa non-conformité soit due au fait que cet imam n'avait pas connaissance du hadith qui mentionne cet acte-là. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit quant à lui, il n'y a pas une personne sans qu'une sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui échappe. Quel que soit l'avis que j'émets, et quelle que soit la règle que j'énonce, s'il existe une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contredit ma parole, il faut alors revenir à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi-même je l'adopte. Il est possible que un imam parmi les imams, il adopte un avis ou il énonce une règle en se basant sur des règles générales de la charia, de la législation islamique. Peut-être qu'il ne dispose pas de textes concernant ce sujet-là, donc il va se baser sur des règles générales afin d'énoncer une règle ou d'émettre un avis. S'il existe une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contredit cela, il faut alors revenir à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imam chef est de dire « et moi-même je l'adopte ». Il a également dit « les musulmans sont unanimes » pour dire qu'il est interdit à la personne à qui une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se présente de la délaisser pour l'opinion de quelqu'un d'autre. Troisièmement, il a dit « si vous trouvez dans mon livre des propos en désaccord avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, adoptez alors la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rejetez ce que j'ai dit. » Et dans une autre version, il a dit « suivez-la et n'accordez d'importance aux paroles de personne d'autre. » Il a également dit, si un hadith s'avère authentique, je l'adopte. Et on va voir plus loin, Incha'Allah, qu'il a tenu des propos encore plus forts que celui-ci. Il a dit, notamment, tu es plus savant dans le hadith. Donc, en note, Cheikh Al-Albani de dire, ces paroles sont destinées à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Rahimahullah, tu es plus savant dans le hadith et la connaissance des rapporteurs du hadith que moi. Donc ça c'est l'imam Shafi'i qui dit ça à l'imam Ahmed, qui est son élève, donc tu vois la modestie. Si tu as un hadith authentique, fais-le moi savoir, quelle que soit son origine, Al-Kufa, Al-Basra, Al-Sham, afin que je l'adopte, s'il est bien authentique. Sixièmement, il a été rapporté de lui qu'il a dit, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'avère authentique chez les ulama du hadith à propos d'une question sur laquelle j'avais émis un avis en désaccord avec ce hadith, alors je me rétracte de cet avis de mon vivant et après ma mort. C'est à partir de là que parfois tu trouves certains avis qui sont appuyés par des hadiths. Ces avis-là n'ont pas été adoptés par l'imam Shafi'i. Tu trouves que certains ulama, parmi les ulama analystes de l'école de l'imam Shafi'i, ont dit cet avis-là n'a pas été adopté par l'imam Shafi'i, mais étant donné qu'il est conforme au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous pouvons l'attribuer à l'imam Shafi'i rahimahullah, étant donné qu'il a dit c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'avère authentique chez les savants du hadith à propos d'une question sur laquelle j'avais émis un avis en désaccord avec ce hadith, alors je me rétracte de cet avis de mon vivant et après ma mort rahimahullah. Il a également dit, si vous me voyez donner un avis contredisant un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sachez que j'ai perdu la raison. Naam. Il a également dit dans tout ce que je dis, s'il existe un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me contredit, alors le hadith est plus en droit d'être suivi. Ne m'imitez donc pas aveuglément. Et enfin, le cheikh al-Albani de faire mention de cette parole de l'imam Shafi'i dans lequel il dit tout hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mon avis, même si vous ne l'avez pas entendu de moi. Donc ça c'est clairement un blâme de sa part du suivi aveugle. Il y en a qui ont compris cette dernière parole de manière erronée. Et ils ont eu une compréhension, on va dire, à l'envers. Ils ont dit donc à partir de là, tous les avis de l'imam Shafi'i, ils sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui bien sûr est une compréhension erronée et ce n'est bien sûr pas ce qu'a visé l'imam Shafi'i rahimahullah. Également, on peut mentionner certaines paroles rapportées de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Il a dit, ne m'imite pas, ni moi, ni Malik, ni Al-Shafi'i, ni Al-Awza'i, ni Al-Thawri, mais puise là où ils ont puisé. Dans une autre version, il a dit, n'imite dans ta religion aucun de ces hommes. Prends tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, mais concernant ce qui vient de ceux qui les ont suivis, tu as le choix de prendre ou de laisser. Il a dit, une fois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consiste à prendre tout ce qui vient de lui et de ses compagnons. Puis on a le choix de prendre ou de laisser ce qui vient des successeurs et de ceux qui les ont suivis. Il a également dit, les opinions d'Al-Awza'i, de Malik et d'Abu Hanifa ne sont que des opinions. Et elles se valent toutes à mes yeux. Mais la preuve réside dans les hadiths. Et il a également dit, celui qui rejette un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est au bord de la perdition. Donc toutes ces paroles-là qui ont été rapportées des imams, ils nous montrent qu'eux-mêmes, ils dénonçaient le suivi aveugle de leur propre personne. Et il y a également d'autres propos qui ont été rapportés d'autres imams, rahimahumullah. Donc tout ça, ça nous met en garde contre le suivi aveugle, afin de ne pas tomber dans la deuxième catégorie de personnes qu'on a mentionnées précédemment lorsqu'on a dit que certains en sont arrivés à exagérer concernant le fiqh, en arrivant parfois à suivre aveuglément certains imams ou ulama de la communauté. Et qu'on a dit donc qu'il faut être dans un juste milieu et ne pas tomber non plus dans l'extrême dans lequel la première catégorie est tombée. Ceux qui n'accordent aucune importance au fiqh et ne lui accordent pas sa place, en considérant que ces opinions de ulama ne sont que des opinions sans valeur. Et vous remarquerez ici, dans ce qu'on a lu, qu'à aucun moment, ces imams disent que les avis adoptés par les ulama en matière de fiqh n'ont aucune valeur. Mais ils ont juste comparé au hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en montrant que ce qui prévaut, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune hésitation. Cependant, comme on l'a vu précédemment, ces différents avis adoptés par les ulama et leurs argumentations doivent nous aider à comprendre les textes du Coran et de la Sunna. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été rapporté de certains ulama, notamment de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qu'il mettait en garde contre le fait d'adopter des avis dans la religion dans lesquels il n'y ait pas d'imam qui nous ait précédé. Il disait, prends garde d'adopter un avis dans la religion dans laquelle il n'y a pas d'imam qui t'ait précédé. Donc, les travaux, les avis et les argumentations des imams occupent une place de choix dans la charia. Cependant, il convient de ne pas exagérer et donc de rester toujours dans un juste milieu et faire en sorte de s'y tenir. Il faut savoir que les ulama, ils ont écrit et recensé donc le fiqh, notamment celui des quatre écoles dont on a fait mention des imams. L'école de l'imam Abu Hanifa, l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Shafi'i et l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah. Et il y a également d'autres imams. Cependant, leur fiqh n'a pas bénéficié de la même attention. On peut mentionner, par exemple, celui de l'imam Tabari, celui de Soufiane al-Thawri, de l'Auza'i, de Al-Layth ibn Sa'd, et d'autres imams dont le fiqh n'a pas bénéficié de la même attention de la part de leurs élèves. Et il est même possible que parfois, les élèves de certains de ces imams-là aient été la cause du fait que le fiqh de leur professeur ne se soit pas propagé. Cependant, nous trouvons leurs avis et argumentations dans les livres de tafsir et dans les livres de hadith, dans les commentaires des livres de hadith, et également dans les ouvrages, on va dire encyclopédiques, relatifs au fiqh. Mais on ne trouve pas de livre qui soit à proprement parler consacré au fiqh de certains de ces imams-là. Dans ces livres-là que nous avons mentionnés, c'est-à-dire les livres de tafsir et les livres de hadith, notamment donc les livres de commentaires de hadith, tu vas trouver également, et c'est là quelque chose de très important, tout ce qui est relatif au fiqh des compagnons. Et qui va te permettre donc d'avoir accès à la compréhension qu'ils ont eue des textes du Coran et de la Sunna. Et il y a certains ouvrages qui sont plus spécialisés que d'autres dans la mention de ces différents avis et argumentations des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu as notamment les deux Musannaf, celui de Ibn Abi Shayba et celui de Abdel Razzaq, qui font mention de ces différents avis. Il faut savoir que les ulama, c'est là un autre point, ils ont emprunté diverses méthodes pour écrire dans ce domaine, c'est-à-dire celui du fiqh. Parmi ces méthodes-là, il y a l'écriture de textes résumés, réunissant les différents chapitres du fiqh. Donc on ne les mentionne pas tous, on en mentionne juste, on mentionne une de ces méthodes-là, étant donné que c'est celle qui nous concerne du fait du type de livre qu'on va essayer d'étudier ensemble. Donc l'écriture de textes résumés réunissant les différents chapitres du fiqh. À notre époque, il faut savoir que les ulama, ils ont fourni beaucoup d'efforts afin de simplifier la compréhension du fiqh. Et je ne dirai pas, je n'utiliserai pas le terme vulgarisé, car le terme vulgarisé, il ne convient pas, il ne sied pas à la science religieuse. On ne dit pas qu'on vulgarise la science religieuse, non. Mais on doit chercher à la simplifier. Les ulama, donc, ils ont cherché à simplifier l'étude du fiqh. Parmi ces ulama, il y a le noble Cheikh Abdelrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, né en 1307 de l'Égypte et mort en 1376, qui a été un éminent savant de la communauté du siècle dernier, et qui compte parmi ses élèves notamment le noble Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, ainsi que le Cheikh al-Bassam, le Cheikh al-Aqil, et d'autres parmi les éminents ulama contemporains de la région du Najd. Il a écrit de nombreux livres, notamment dans le domaine du dogme et du fiqh, ainsi que dans le hadith et dans le tafsir. Vous connaissez tous son tafsir, son exégèse du Coran. Également ses commentaires de certains livres de dogme. Commentaires qu'il a fait de livres du Tawhid, Kitab al-Tawhid. Également les annotations qu'il a posées sur la croyance d'Al-Wasitiyya, d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et également plusieurs livres dans le fiqh, ainsi que dans les fondements du fiqh, ainsi que dans les règles du fiqh. Parmi ces livres-là, il y a le livre Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din. Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din. Donc, l'édition à prendre en compte, c'est celle de Ibn al-Jawzi que vous voyez ici. Et qui est également disponible en format souple, aux mêmes éditions d'Ibn al-Jawzi. Ce livre se particularise par le fait que l'auteur y a cherché, premièrement, la simplicité. Deuxièmement, à accompagner chaque enseignement de la preuve qu'il appuie. Et c'est là donc une pédagogie suivie par les ulama de la sunna, le fait d'insister sur l'éducation de l'étudiant conformément à la preuve, afin qu'il prenne l'habitude et qu'il considère les textes du Coran et de la sunna et les différentes preuves religieuses, et qu'il leur accorde toute leur importance, et qu'il s'habitue à comprendre, à chercher à comprendre ces textes-là. Donc, après cette introduction concernant le fiqh, cette introduction qui est largement inspirée de l'introduction du noble Cheikh Saleh Al-Fawzan, de son livre intitulé Al-Sharh, excusez-moi, Al-Mukhtasar, ala matni zad al-mustaqni'. Donc cette introduction, elle est largement inspirée, à quelques exceptions près, de son introduction, hafidhahullah. Donc il faut savoir donc, que concernant l'étude de ce livre et sa traduction, ça fait longtemps que c'était à l'esprit, je l'avais à l'esprit, pour diverses raisons. Je ne m'étais toujours pas lancé dans cela, si ce n'est donc la traduction écrite de certains passages. Et dernièrement, Donc il m'est parvenu une nouvelle à la base réjouissante et qui m'a donc réjoui, à savoir donc le fait que ce livre a été traduit, que ce livre donc a été traduit en langue française. Lorsque j'ai demandé donc au frère qui m'a informé quelle était la maison d'édition, donc il m'a cité une maison d'édition et je lui ai répondu, c'est vrai que cette maison d'édition n'a pas toujours fait des choix très judicieux dans les livres qu'ils ont traduits. Cependant, en termes de traduction, ils ont la réputation d'être des gens sérieux. Donc j'étais content. Je lui ai donc demandé de me ramener le livre. Le lendemain, donc, il m'a ramené le livre que vous voyez ici. Naam. Donc, très belle couverture. Sauf que je n'étais pas au bout de mes peines lorsque j'ai commencé à voir ce qu'ils ont fait de ce livre. Wallahu al-musta'an. Qui, et je ne pense pas exagérer quand je dis cela, s'apparente plus à un album photo qu'à un livre de fiqh. De plus, ils ont eu le culot de dire à l'usage des étudiants en sciences religieuses. Donc la question se pose, où est-ce que les étudiants en sciences religieuses vont écrire ? Al-ilmu sayyidun wal-kitabatu qayduhu. قيد سيودك بالحبال الوافقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق الطالقة. La science, نعم, c'est elle une proie. Et l'écriture, c'est le moyen de la capturer. Capture donc tes proies avec des cordes bien solides, car il fait partie de la bêtise que tu captures une gazelle puis que tu la laisses seule, livrée à elle-même, au milieu des bêtes féroces. Donc, l'étudiant en sciences religieuses, il se doit d'accorder de l'importance à l'écriture. Quand tu étudies un livre, à la base, les notes que tu les prends sur ce livre. Donc, où c'est que les étudiants en sciences religieuses, ils vont écrire ? Est-ce qu'ils vont écrire sur un dôme ? Est-ce qu'ils vont écrire quand ils vont commencer Kitab al-Zaka? Est-ce qu'ils vont écrire sur la photo de la page de couverture du livre de Youssouf al-Qardawi intitulé Fiqh al-Zaka? Est-ce que par la suite, ils vont, quand ils vont aborder donc, le sujet de Al-Wasiyya, hein, Naam, comme on peut le trouver donc ici. Chapitre des successions. Ils vont écrire à côté de quoi ? À côté la photo d'une main, d'une femme qui ne se coupe même pas les ongles. Ça, c'est un livre qui sert donc à exposer. C'est-à-dire, ça cultive quoi ? L'habitude que les gens ont d'acheter des livres pour en acheter et pour les mettre dans leur bibliothèque, pour orner leur bibliothèque, ni plus ni moins. Et ça, c'est un crime à l'encontre de la science. C'est une injustice à l'encontre de l'auteur, qui, sans hésitation, n'aurait pas accepté de voir son livre édité de cette manière-là. Et c'est de la tromperie et c'est du vol. Alors à la base, comme la traduction, malgré tout, a l'air relativement correcte, je m'étais dit, je vais vous demander de l'acheter et on va essayer de faire abstraction. Mais à vrai dire, j'ai eu honte de faire cette chose-là et je n'arriverai pas donc à vous dire de sortir 15 euros pour acheter un livre comme ça, Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le traduire. On va tenter de le traduire nous-mêmes en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si donc je m'attarde sur cette chose-là, c'est que malheureusement, ça devient monnaie courante. C'est-à-dire que malheureusement, donc, la religion des musulmans est devenue un moyen d'obtenir des biens. Wallahu al-musta'an. Tayyib. Donc, ce livre-là, il s'appelle, il s'intitule Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Il y a dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wabihi nasta'in. Et c'est de lui dont nous implorons l'aide. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للوانج سنت الله. Nous le louons, implorons son aide et son pardon, et nous nous repentons à lui, et nous demandons protection auprès d'Allah contre les vices de nos personnes et nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque l'égare, alors il n'y aura pas pour lui de guide. Et j'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Que les éloges d'Allah et le salut soient sur lui, ainsi que sur sa famille. أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين لأن العلم معرفة الحق بدليله والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وأقتصر على الأدلة المشهورة خوف من التطويل وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية ceci dit, voici un livre résumé en matière de fiqh. J'y ai joint ces différents enseignements à leurs preuves. Et je m'y suis contenté de mentionner uniquement les choses les plus importantes et les plus utiles. Du fait de la grande nécessité qu'il y a de connaître ce sujet-là. Et bien souvent, je me contente de ne citer que le texte si le jugement qui en découle est clair. Étant donné que le texte est plus simple à mémoriser et que sa compréhension est plus accessible pour les débutants. Et ce, du fait que la science, le savoir, c'est la connaissance de la vérité accompagnée de sa preuve. Et le fiqh, c'est la connaissance des règles spécifiques de la charia à partir des preuves qui les appuient. Le fiqh, c'est les règles, la connaissance des règles spécifiques de la charia à partir des preuves qui les appuient. Que ces preuves-là fassent partie du livre, ou de la sunna, ou du consensus, ou de la saine analogie, al-qiyas. Et je me contente de mentionner les preuves qui sont connues, par crainte d'être trop long. Et si jamais la question est sujette à divergence, alors je me contente de mentionner l'avis qui prévaut selon moi, suivant dans cela les preuves de la charia. Le shir de continuer en disant al-ahkamu khamsa, al-wajib, وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه والحرام ضده والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله والمسنون ضده والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عبادته ومعاملته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. Donc le shir ici de dire les différents types ou les différents statuts religieux relatifs aux actes. Les statuts religieux relatifs aux actes sont au nombre de 5. Al-wajib, l'obligatoire, qui correspond à ceux dont celui qui l'accomplit est récompensé, alors que celui qui le délaisse est châtié. Le deuxième, c'est al-haram, l'interdit, qui est l'inverse du premier. Le troisième, c'est al-makruh, qui correspond à ceux dont celui qui l'accomplit plutôt, excusez-moi, à ceux dont celui qui le délaisse est récompensé, alors que celui qui l'accomplit n'est pas châtié. Ceux dont celui qui le délaisse est récompensé, alors que celui qui l'accomplit n'est pas châtié. Quatrièmement, al-masnoun, ce qui est recommandé et qui est l'inverse du troisième. Et cinquièmement, al-mubah, ce qui est permis. Et c'est ce qui correspond au domaine dans lequel l'accomplissement et le délaissement sont identiques. Le shir de continue en disant, et il est obligatoire à celui qui est redevable des obligations religieuses d'apprendre de cela tout ce dont il aura besoin dans ses adorations et dans ses relations sociales, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Hadith unanimement reconnu, authentique, dans le sens qu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce passage-là, on retient plusieurs points. Premièrement, le fait que l'auteur, il a débuté par la basmala et par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé par la basmala, suivant dans cela le modèle du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, recherchant par là qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse l'initiative qu'il a entrepris d'écrire dans ce sujet important. Et il a demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant, étant donné que ce noble but ne peut être atteint qu'en bénéficiant d'une aide venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ لِلْفَتَى فَأَوَّلُ مَا يَقْضِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ. Si l'individu ne bénéficie pas d'une aide venant d'Allah, alors la première chose qui va le faire périr, c'est son propre effort. Deuxièmement, on retient la pédagogie de l'auteur dans le fait que ce livre, comme il l'a annoncé ici, est un livre résumé, étant donné qu'il s'adresse aux débutants. Également, on se rend compte que l'auteur y a lié les différents enseignements présents dans ce livre à leurs preuves. Et c'est là quelque chose de très important, comme nous l'avons dit précédemment, à savoir le fait d'éduquer l'étudiant avec des preuves, afin de le lier au texte et aux différentes preuves religieuses, et non pas le lier à l'enseignant. Troisièmement, on a pu retenir de ce passage la définition du fiqh. Et on a dit que le fiqh, c'était la connaissance des règles spécifiques de la charia à partir des preuves qui les appuient, tirées du Coran, de la sunna, de l'ijma', le consensus, et de la saine analogie, al-qiyas al-sahih. Le fait qu'on dise les règles spécifiques de la charia, ça exclut de cette définition ce qu'on appelle usul al-fiqh, à savoir les fondements du fiqh. Qui sont relatifs à des règles globales et générales et non pas spécifiques. Et le fait que l'auteur ait cité le Coran, la sunna, le consensus et la saine analogie, c'est une manière d'aborder les preuves religieuses qui sont prises en compte et qui sont l'objet d'unanimité chez les savants, hormis un léger une légère divergence concernant Al-Qiyas, donc la saine analogie. Et sinon, donc, toutes ces preuves-là sont matière à unanimité chez les savants. C'est-à-dire, dans le sens, ils considèrent tous ces preuves-là comme étant des preuves religieuses à prendre en compte. أدلة الشرع الشريف أربعة محكم آي سنة متبعة والثالث الإجماع حيث ينجلي والرابع القياس واخصص الجلي. Ce qui résume donc ces quatre types de preuves religieuses. Le fait d'aborder ce point-là, cette définition-là, ça nous amène justement à attirer l'attention vers la fausseté du fait de définir, de traduire le terme fiqh par jurisprudence, comme on le fait bien souvent, malheureusement. Pourquoi ? Parce que le terme jurisprudence, il a deux acceptions, deux sens, deux définitions. Une acception ancienne, qui n'est plus très usitée, et qui désigne le droit. Donc dans ce sens-là, la jurisprudence serait un synonyme du droit. Et une deuxième acception, qui est le plus souvent voulue à notre époque, lorsque le terme jurisprudence est utilisé, et qui désigne un ensemble de lois mises en place par des magistrats. Ou là, dans des tribunaux. Et tu trouveras que la jurisprudence, elle fait référence à des lois nouvelles. Tu diras par exemple, dans tel cas a fait jurisprudence, dans le sens où de nouveaux jugements ont été émis concernant une affaire donnée. Donc la jurisprudence, elle est sans cesse sujette à l'évolution. Si tu prends en compte le premier sens, qui n'est plus utilisé à notre époque, à savoir le droit, eh bien tu diras que le terme jurisprudence ne reflète pas le sens ou l'ensemble des sens contenus par le fiqh. Étant donné que le fiqh, c'est beaucoup plus vaste que cela. Et ce n'est pas uniquement lié aux relations sociales, comme pourrait l'être le terme jurisprudence dans son sens ancien. Et si tu prends en compte le second sens qui est le plus souvent voulu lorsque le terme jurisprudence est utilisé à notre époque, eh bien tu te rendras compte que ça fausse complètement la compréhension du terme fiqh que d'utiliser le terme jurisprudence pour le traduire. Parce que ça laisse entendre qu'en vérité, le fiqh ne viendrait pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or le fiqh, comme vous l'avez entendu, c'est la connaissance des règles spécifiques de la sharia, et la sharia elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir des preuves qui les appuie, tiré du Coran, de la sunna, du consensus et de la saine analogie. Et le fait d'utiliser le terme jurisprudence pour traduire le fiqh, ça contribue à ce que bon nombre de gens aient une mauvaise compréhension du fiqh et en arrivent à penser que ce sont là des lois établies par les ulama de l'islam, alors que les ulama ils ne les ont pas établies, mais ils les ont plutôt puisées des textes du Coran et de la Sunna. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser le terme fiqh tel qu'il est en langue arabe, puis de l'expliquer. Je dis préférable par précaution au cas où il y aurait un terme en français qui correspondrait. Et si ce n'est pas le cas, alors il serait obligatoire de ne pas déroger à l'utilisation du terme fiqh. Et il est dans tous les cas donc interdit de le traduire par jurisprudence du fait de ce que cela contient comme approximation et comme conséquence mauvaise. Également, on peut retenir de ce passage, c'est un quatrième point, la mention des différents statuts religieux relatifs aux actes, qui sont au nombre de 5. Al-wajib, ce qui est obligatoire, al-haram, ce qui est interdit, al-makruh, ce qui est réprouvé, al-masnoun, ce qui est recommandé, et al-mubah, ce qui est permis. Et vous avez entendu donc la définition ou les définitions de chacun de ces termes. Et il est important d'attirer l'attention ici, comme l'a d'ailleurs fait celui qui a édité le livre, dans la marge, d'attirer l'attention vers le fait que l'auteur, rahimahullah, il a défini tout cela en prenant en compte les conséquences. Et il n'a pas cherché par là à délimiter les sens de ces différents termes. Remarquez que par exemple, il a dit al-wajib, ce qui est obligatoire, c'est ce dont celui qui l'accomplit est récompensé, alors que celui qui le délaisse est châtié. Al-haram, ce qui est interdit, c'est son inverse. Al-makruh, il a dit, c'est ce dont celui qui le délaisse est récompensé, alors que celui qui l'accomplit est châtié. Al-masnoun, ce qui est recommandé, c'est l'inverse. Et ensuite, il a défini donc al-mubah. Donc, si on veut définir ces termes-là, en cherchant donc à délimiter leur sens, on va dire que al-wajib, ce qui est obligatoire, c'est ce que le législateur a demandé d'accomplir de manière ferme. Ce que le législateur a demandé d'accomplir de manière ferme. Alors que al-haram, ce qui est interdit, c'est ce que le législateur a demandé de délaisser de manière ferme. Al-makruh, ce qui est réprouvé, c'est ce que le législateur a demandé de délaisser sans que cela soit fait de manière ferme. Al-masnoun, c'est l'inverse. C'est ce que le législateur a demandé d'accomplir sans que cela soit fait de manière ferme. Et enfin, al-mubah, ce qui est permis, c'est ce qui en soi, c'est ce qui en soi ne bénéficie d'aucun ordre ni réprobation. C'est ce qui en soi ne bénéficie d'aucun ordre ni réprobation. En soi, pourquoi ? Parce qu'il est possible que cette chose-là, ce qui est permis, si tu vises par son accomplissement le fait de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est possible que tu sois récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, parmi ce qui est mubah, le fait de se reposer. Si tu le fais en ayant comme intention de prendre des forces pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment-là, tu seras éventuellement récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Également concernant ce qu'a dit l'auteur ici, rahimahullah, il est important d'apporter deux précisions. Et ce, lorsqu'il a défini, par exemple, ce qui est obligatoire. Et qu'il a dit, ce dont celui qui l'accomplit est récompensé. Il est important de préciser, en cherchant par là à obéir. Car si, par exemple, une personne, elle accomplit un acte obligatoire, mais qu'elle ne le fait pas dans le but d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment-là, elle ne sera pas menée à bénéficier de sa récompense, Jalla Jalalu. Également, quand il a dit, et celui qui le délaisse est châtié. Il est plus précis de dire, mérite le châtiment. Il est plus précis de dire, et celui qui le délaisse mérite le châtiment, au lieu de est châtié. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, mais il pardonne en dessous de cela des péchés moins graves à qui il veut. Pour cela qu'il est plus précis de dire mérite le châtiment afin de ne pas affirmer le châtiment, alors qu'il est envisageable qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas, de par sa miséricorde et son pardon, celui qui aura délaissé certaines obligations. Donc c'était là l'introduction de l'auteur, l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, de son livre Manhaj al-Salikin. Et on continuera demain, bi-idhnillah, avec le premier chapitre relatif à la purification, en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va s'en tenir à cela pour aujourd'hui. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.